Bien, donc, je vais donc vous montrer comment, partant d'un vestige qui est le silex même, hein, pas la roche, le silex, comment, à partir de là, on arrive à déchiffrer, encore relativement peu, mais bon, c'est toujours très long pour comprendre, on arrive à déchiffrer un certain nombre de comportements de ces hommes préhistoriques, et notamment ici, donc, des chasseurs-cueilleurs du paléolithique supérieur. Donc, première chose, je vais être un peu didactique, pour les personnes qui connaissent mal la préhistoire, ce qu'il faut savoir dans la préhistoire, c'est comme l'histoire, il y a des dates, il y a des époques, il y a des faits qui se passent à différentes époques, et donc il est nécessaire de bien savoir où on se trouve dans le temps et qu'est-ce qui se passe pour chaque époque. Alors ici c'est simple, ça c'est un résumé de la préhistoire, disons, de notre région à partir de 200 000 ans. On pourrait aller au-delà, mais ça n'est pas nécessaire. Donc, première chose, ce qu'on voit, c'est que ici, nous sommes à 200, tout à fait en haut, 200 000 ans, 35 000, 9 500, 5 500 et 1 900. C'est-à-dire, vous voyez tout de suite, on part de périodes très longues, d'une part, et d'autre part, à mesure que l'on va vers notre époque actuelle, les périodes sont de plus en plus courtes. Hein, donc il y a une accélération, des faits, des périodes qui est liée, cette accélération est liée au progrès culturel. Comme vous le savez, hein, puisque nous sommes tous un peu, en grande partie d'un âge vénérable, nous avons connu une cause qui n'avait plus rien à voir, qui n'a plus grand chose à voir avec le COS actuel. Eh bien voilà, c'est cette accélération que l'on perçoit aujourd'hui à notre échelle, à l'échelle d'une vie, eh bien elle a commencé bien avant, déjà pendant la préhistoire, et là, ces dates en fait montrent cette accélération du phénomène culturel, c'est-à-dire que les innovations qui nous permettent de placer des époques sont de plus en plus fréquentes, deviennent de plus en plus nombreuses. Alors, après, il suffit de diviser ce tableau en deux périodes. Voilà, ici, on a vers 1900 ans, 2000 ans à peu près, c'est de ce côté l'âge des métaux, le bronze, l'âge du fer, avant l'histoire, hein. Donc, ils connaissent les métaux. Et avant, ils ne connaissaient pas les métaux, tout ça. À gauche, c'est l'âge de la pierre. Donc, âge des métaux, âge de la pierre. Vous voyez que tout de suite, l'humanité a vécu essentiellement, ne connaissait pas les métaux, et donc dans l'âge de la pierre. Bien, deuxième chose, on va couper ici. Ici, c'est les agriculteurs éleveurs, à droite, et ici, les chasseurs-cueilleurs. Donc là aussi, vous voyez, à 5500 ans, chez nous, l'agriculture est apparue, donc c'est, pour un préhistorien, extrêmement récent par rapport à la longueur des temps préhistoriques qui l'ont précédé. Bien, donc on est là, néolithique. Bien, donc ici et après on va distinguer mésolithique, on va le laisser de côté, c'est une période intermédiaire, on va parler de paléolithique. Ici, le paléolithique supérieur, c'est celui qu'on va voir tout de suite, et le paléolithique moyen. Ici, paléolithique moyen, c'est les Néandertaliens, l'homme de Néandertal. Vers 35 000 ans à peu près, ici, c'est les hommes anatomiquement modernes, c'est-à-dire nous, et notamment l'homme de Cro-Magnon. L'homme de Cro-Magnon, il n'aurait déjà été qu'un individu très proche des types humains actuels. Bien. Vers moins de 35 000 ans. Donc, on va s'intéresser essentiellement à cette période paléolithique supérieure. Bien. Deuxième chose qu'il faut voir, c'est cette couleur bleue et cette couleur verte. Ça, c'est vision très, comment dirais-je, très, très grossière de l'évolution climatique. Ici, ce sont ce qu'on appelle les glaciations, en bleu, la dernière glaciation, glaciation du Würm, ici la glaciation du Ritz. Bon, aujourd'hui, les climatologues utilisent tellement cette détermination, ces noms, mais ce n'est pas grave. Bien, donc, et nous sommes aujourd'hui dans ces périodes dites interglaciaires, c'est-à-dire une période tempérée. Donc, paléolithique supérieur, ici, c'est essentiellement pendant la période, en très grande partie, pendant la période froide, pendant la dernière glaciation, la glaciation du Würm. Bien, ça veut dire quoi? Climat froid, ça veut dire qu'il va y avoir une faune soit adaptée à un climat froid, ça va être le renne, le bison, le mammouth, le cheval, par exemple, qui est un peu... Et la période tempérée, c'est la faune actuelle, le cerf, le chevreuil, le sanglier. Le cheval va réapparaître, mais tout à fait pendant l'âge du bronze, et sous la forme domestiquée. Bien, donc, une faune plutôt froide, l'homme, les préhistoriens distinguaient avec les outillages différentes époques. Alors je vous parlerai essentiellement de l'Aurignacien, du Gravettien, c'est simplement une façon de fabriquer le silex, un mode de taille, qui évolue dans le temps et que les préhistoriens utilisent pour distinguer différentes périodes, aurignacien, gravettien, solutrien, magdalénien. Homme anatomiquement moderne, je l'ai dit. Voilà, chasse, ce sont des chasseurs. Ici, aussi la pêche et la cueillette. Chasse, pêche, cueillette. C'est leur mode de subsistance. Ce mode de subsistance entraîne un point particulier, c'est qu'ils sont obligés de se déplacer dans un territoire. Tout simplement parce que, dans la mesure où ils ne produisent pas la nourriture, ils vont être obligés de se déplacer, soit parce qu'ils ont épuisé la nourriture autour de leur habitat, soit parce que leur nourriture, par exemple le gibier, s'est déplacée. Par exemple le renne, nous allons voir ça, le renne se déplace, donc ils sont obligés de se déplacer. Ils se déplacent, contrairement aux agriculteurs qui, eux, vont être des sédentaires. Et c'est à ce moment-là qu'on va trouver les premiers villages, villages et maisons. Bien. Donc l'outillage sur éclat, bon, ça c'est relativement... ça nous intéresse peu. Bon, c'est un outillage, on appelait ça hache de la pierre taillée, alors que la... Pour les néolithiques, on va trouver les haches polies, et puis la poterie. Ici, il n'y a pas de poterie. Voilà, un outillage sur pierre et outillage en os. Bien, l'art, c'est l'époque, ici, pour le paléolithique supérieur, l'époque de cette superbe art, qui est l'art paléolithique, Cognac, dans le coin. Voilà, et puis sinon... Il y a aussi des sépultures, ces hommes enterrent leurs morts, et ça on va le retrouver jusqu'à l'époque actuelle. Bien, voilà, ça c'est, si vous voulez, le résumé de le cadre dans lequel je vais vous parler, et donc, comme je vous le dis, on va aborder essentiellement cette période ici, période froide, avec l'Aurignacien, Gravettien, Solutréen, Magdalénien, avec un homme anatomiquement moderne. Bien, donc il fait froid. Première chose, ici c'est une vue du globe terrestre, mais vue de, non pas avec la vue latérale que l'on connaît, mais au contraire au-dessus du pôle Nord. Vous voyez ici le Groenland, donc le pôle Nord est par ici, hein, et en violet, tout ce qui est violet, c'est les glaciers, voilà, la calotte glaciaire qui couvrait toute cette région vers moins 20 000 ans. Donc elle recouvrait à la fois le Groenland, mais aussi tout le nord de l'Amérique du Nord, naturellement, tout le nord, enfin une partie de l'Asie, la Scandinavie, jusqu'à la Grande-Bretagne, et puis aussi il y avait des glaciers alpins, par exemple. Donc, nous sommes sous un climat froid, ce qui ne veut pas dire un climat antarctique ou glaciaire, il n'y avait pas de pingouins dans les rues de Grande-Bretagne, mais il faisait froid. Bien. Voilà, en gros, ça c'est une vue d'une prise dans le nord du Canada, donc en région subarctique. Vous voyez un paysage très ouvert. Je vais vous donner une deuxième photo qui est tout simplement, ça c'est le... j'avais pris ça quand je faisais du ski dans le Massif central, quand il y avait de la neige encore. Voilà, ça c'est le... Voilà, c'est le type de paysage que cet homme du Paléolithique supérieur côtoyait. Donc, il y a du renne. Et le renne, vous allez voir, c'est primordial. Dans le Paléolithique supérieur, dans le nord de l'Aquitaine, il faut considérer que le nombre de vestiges qui ont été identifiés dans les sites archéologiques de cette époque, de vestiges animaux, c'est à 80% du renne, c'est-à-dire qu'ils mangent du renne le matin, le midi et le soir. Hein, si on est appelé Paléolithique supérieur âge du renne, il y avait bien une raison, c'est celle-là. C'est que c'est l'animal qui a été préférentiellement, le gibier qui a été préférentiellement chassé par ces hommes préhistoriques. Bon, mais il y avait aussi du bison. Ils ont eu la gentillesse de nous les représenter. Ici, c'est dans le diverticule axial de la grotte de Lascaux, et vous voyez deux bisons enfaculés. Voilà la tête, ici, le premier, et le deuxième bison, ici. Donc, Lascaux 4 étant ouvert, je vous invite à aller voir la réplique de ces bisons. C'est vraiment un art formidable. Donc ce sont des artistes aussi, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ils avaient aussi donc du cheval, ici c'est le cheval de Fevalski, mais qui ressemble le plus aux chevaux sauvages de cette époque. Malheureusement, on a appris récemment que ces chevaux de Fevalski qu'on avait trouvés dans les plaines centrales de l'Asie, en fait sont en fait des descendants de chevaux domestiqués, d'après ce que j'ai lu. Hein. C'est dommage, mais tant pis. Bon, voilà, donc ça c'est un vrai cheval sauvage, c'est celui de la grotte de Lascaux, dans le diverticule axial, un des chevaux. Bien, donc, cheval. Et puis naturellement, l'animal emblématique de cette époque, le mammouth. Le mammouth qui a aussi disparu, qui a eu le malheur de disparaître, dans les plaines de l'Asie, probablement liées à des surchasses. Bien. Donc, voilà. Et puis, face à eux, l'homme, ici, en l'occurrence, ici, c'est une femme, c'est la femme qui a été trouvée à l'abri Pato dans la commune des Essies. Et vous voyez tout de suite que c'est qu'il n'y a pas de différence avec un crâne actuel, donc un front bombé, notamment, hein, aussi un menton, là, alors que chez le Néandertal, on va avoir un menton fuyant. Par rapport à nous, elle a toutes ses dents. Les dents de sagesse, elle les a. Enfin, quand elle les a pas perdues, mais elle avait toutes leurs dents. La légère évolution qui nous affecte, nous, hommes, c'est qu'on a une régression de la mâchoire, dans la mesure où on mâche moins, et donc on a tendance à perdre nos dents de sagesse. Du moins, ne pas avoir nos dents de sagesse. Bien. Donc, c'est l'homme actuel. Bien. Ça, c'est au Magdalénien, tardiglaciaire, Magdalénien, c'est-à-dire la fin du Paléolithique supérieur. Je vous ai pris cette carte pour vous montrer comment l'Europe était occupée à cette époque, hein, c'est-à-dire entre 15 000 et, et disons 12 000 à peu près avant Jésus-Christ, ben, vous voyez donc qu'il y a là, vous avez une répartition très inégale des sites, et vous voyez qu'il y a une très grosse concentration ici, dans ce que j'appelle la corne aquitano-cantabrique, ici, c'est-à-dire nous sommes ici, en Aquitaine, hein, le nord des Pyrénées, et la Cantabrie. Alors que dès qu'on passe en dessous des Pyrénées, vous voyez, il n'y a plus grand-chose. Le long de la Méditerranée, il y en a. Et encore là, c'est une période où l'Europe commence. Nous sommes à la fin du paléolithique supérieur, le climat s'améliore petit à petit. Et en fait, c'est une période où déjà les zones nord, notamment les plaines de l'Europe, commencent à être colonisées par ces populations. Donc il faut imaginer que là, c'est vraiment ici où il y a eu un maximum de population pendant cette période, le paléolithique supérieur. Maximum de population, donc une population très nombreuse. Probablement pour des raisons écologiques, notamment la présence de ce troupeau de rennes, au moins en Aquitaine. Et probablement aussi une humidité plus forte. Donc, et cette région-là, en fait, est aussi la région phare où se concentre le maximum de grottes ornées, où l'art s'est développé. Bon, ça c'est une annexe. Ça ne répond pas à ma problématique ici. Donc ici, voilà une vue de la région de l'Aquitaine, toujours à l'Aurignacien, c'est-à-dire la première période. Bon, ça c'est sur une carte actuelle, mais en fait il faut imaginer que dans la mesure où il y avait, j'ai oublié de vous le dire, dans la mesure où il y avait une calotte glaciaire sur tout le nord, hein, beaucoup d'eau était mobilisée par cette calotte glaciaire. De ce fait, le niveau de la mer a baissé de 120 mètres. C'est-à-dire que le rivage se trouvait, vous voyez, en dehors de la carte, quelque part par là, à plusieurs centaines de kilomètres de la côte. Bien, donc, toute cette partie qui est maintenant sous l'eau, on ne sait pas trop ce qu'il y avait, à cette époque. Bien, donc, dans cette... comment dirais-je, dans cette région où vous avez une concentration de... vous aviez une concentration de population. Je vous parle de concentration, en fait, c'est quelques centaines d'individus, hein, c'est pas grand monde. Donc, il y a aussi des régions, des lieux où il y a une concentration, notamment, vous l'en doutez, autour des Esitaïac, le long d'un désert, ici. Donc là, il y a beaucoup de... il y avait énormément de... c'est là où on trouve le maximum de sites. Bon, il y a aussi le bassin de Mouy, mais ça c'est lié à d'autres raisons. Voilà, donc, bien voir qu'il y a un centre ici, parce que c'est le point qui va être, que je vais reprendre, un centre où il y a une concentration de vestiges, et puis un semi de sites qui sont beaucoup plus dispersés. Bon, ça c'est l'Aurignacien. Au Magdalénien, c'est un peu différent. Mais vous avez toujours cette concentration de sites ici. Hein, par contre, vous allez avoir des sites, notamment ici à la confluence du Lot et du Céré, ou ici en Gironde. Donc, il y a des petits changements. Mais vous voyez toujours l'importance de cette région ici, la basse vallée de la Vézère. Bien, donc ces gens sont des nomades, mais ce sont des nomades, donc ils ne connaissent pas les villages, il n'y a pas de maison. En revanche, ils vont utiliser des abris naturels, comme ici l'abri de la Madeleine, ici, donc c'est juste un abri, hein, voilà. L'abri de la Madeleine qui se trouve vers Tursac, c'est-à-dire vers les Esitaïac, un peu en amont. Voilà, donc il n'y a rien d'autre à dire. Donc, ces gens habitaient sous des abris, tout simplement parce que, étant nomades, ils n'avaient pas l'intérêt à construire des maisons puisqu'ils se déplaçaient constamment. Donc ici, c'est un abri, et je vais vous montrer un autre exemple. Ici, c'est la grotte de Champs dans le bassin de Brive. Et donc, une grotte creusée dans les grès, non pas dans les calcaires. Mais ces gens habitaient, non pas au fond de cette caverne, mais en fait devant, ici. Voilà, donc, c'est un abri, mais ce ne sont pas pour ça des hommes des cavernes. Hein. C'est simplement un endroit où il y avait un maximum de confort pour s'installer. Notamment, ces abris sont souvent vers le sud, sud-est. C'est-à-dire vers le soleil levant. Bien, donc ces hommes, ne connaissant pas les métaux, fabriquer leurs outils, certains outils du moins, des outils coupants, dans le silex. Voilà un exemple, ici ce sont des grattoirs en haut, là, qui servaient probablement à gratter les pots. Ici vous avez des burins, ici, voilà, qui eux servaient à travailler l'os, les matières, voilà, essentiellement l'os ou les bois de rennes.
Bien. En 13, c'est un perçoir.
Pardon ?
Là, en 13, c'est aussi un burin.
Oui, ça, c'est un burin, oui. D'accord. Oui, oui, oui. Mais ça, c'est. Je ne vais pas vous faire un cours de typologie, hein, parce que ça va. Mais là, on sera là encore demain. Bien, donc. L'important, c'est de voir, c'est du silex. Point. Bien, donc, c'est du silex. Et ça, c'est intéressant. Parce que ce silex, on voit. C'est là où. C'est avec ça que j'ai eu ma carte de visite pour entrer au CNRS, hein, on m'a dit que j'étais professionnel. Bien, voilà, c'est tout simplement parce que j'ai travaillé sur ce sujet, un sujet qui était encore très peu couru. On était trois d'ailleurs, hein, il faut dire qu'il y avait André Morala et Alain Turc qui ont travaillé au musée des Ésies, qui ont fait leur carrière là. Donc on était trois. On avait cet avantage d'être sur le... Il y avait les Américains qui s'étaient intéressés à ce sujet, mais ils étaient loin. Alors que nous, on était dans le coin, on n'a pas été partout. Et qu'est-ce qu'on a fait? Tout simplement, on a été chercher l'Égypte de Silex. Alors, vous voyez, la carte est mauvaise, mais en gros, ici, là c'est le massif central, les roches granitiques métamorphiques. Ici, vous avez le bassin de Brive, là, le bassin gréseux. Puis ici, vous avez le Jurassique en bleu, hein, le Cos, où on est. Voilà. Ici, en vert, c'est là le plus important, le Crétacé supérieur, c'est-à-dire qu'on est à la fin de l'ère secondaire. Et puis ici, on passe à l'ère tertiaire, le jaune, ce sont les silex tertiaires. Bien, donc, c'est là-dedans, dans cette géologie, je vous dis, relativement complexe, mais si, quand on la survole, on voit qu'elle est relativement... simple, c'est-à-dire que il faut imaginer, il y a, je suis totalement brouillé avec les dates, mais il y a plusieurs centaines de millions d'années, la mer recouvrait toute cette région. Et petit à petit, au fil des ans, elle va se retirer jusqu'à notre région, jusqu'à notre comment dirais-je, jusqu'à les côtes actuelles. Bien, donc, et elle va laisser derrière elle des sédiments qu'on appelle les calcaires, les grès ici, des calcaires qui vont être donc de plus en plus récents en mesure que l'on va vers de l'est vers l'ouest. Jurassique, Crétacé, Tertiaire. Et dans certaines de ces formations, s'est formé un silex qui n'est jamais en fait une concrétion que vous pouvez connaître, vous avez peut-être vu en vous baladant, par exemple, en Périgord, dans les coupes de route. Hein, c'est ces gros rognons qui sortent des coupes de route. En voilà deux exemplaires, hein, ici et l'autre. Une photo qui a été prise vers les Ésies, dans un calcaire du Santonien, donc ça c'est du calcaire. Vous voyez, voilà, ça c'est un rognon qui a été coupé. Et donc c'est ce matériau-là qui a été utilisé par les préhistoriques. Par les préhistoriques. Qu'est-ce qui les intéressait dans ce matériau? C'est une roche Siliceuse, première chose, c'est de la silice, comme le quartz hein, que vous trouvez. La différence avec le quartz, on appelle le quartz, hein, que vous trouvez dans les champs, c'est que le quartz, c'est cristallisé, c'est un peu comme le sucre. Vous cassez et il y a des petits cristaux. Ça a été utilisé surtout par les moustériens et c'est peu efficace. En revanche, ce silex-là, le silex, lui, c'est une roche qui est au niveau macroscopique, pas au niveau microscopique, mais au niveau macroscopique, c'est une roche, un peu comme le verre. Voilà, hein, ça ressemble beaucoup au verre. C'est-à-dire que vous allez pouvoir contrôler, quand vous allez taper sur ce silex, vous allez pouvoir contrôler la fracture et le résultat va vous donner des outils coupants. Très coupants, hein, quand on fait des techniques de taille, les tailleurs disent « Attention, hein, ça coupe !» Et il y a toujours quelqu'un qui dit « Ah, ben oui, je me suis coupé là hein. !» Bien, donc ça coupe. Mais ce qui est important, c'est un peu, ça ressemble un peu au verre. Donc ce matériau a été utilisé tout simplement parce qu'il est... Il se prête particulièrement bien à la taille de la pierre et ça permet donc d'obtenir des outils coupants. Bien, donc voilà, ça c'est des outils coupants. On reprend le sujet, on était donc trois, là c'est mon travail, et donc il a fallu crapahuter sur toute cette région pour repérer tous les gîtes, non pas tous les gîtes, mais une partie des gîtes de cette région. En fait, c'est une immense nappe ici, de silex, il y en a partout, c'est juste des échantillonnages qui ont été faits. Donc, première chose, ce qui paraît tout de suite, c'est que dans cette région verte, qui est le Crétacé supérieur, on appelle le Sénonien, dans une partie sénonienne, vous avez des silex extrêmement abondants. Vous en avez d'autres qui sont plus particuliers, comme ici dans le Bergeracois, on va voir. Ici, c'est silex tertiaire autour de Dôme. En gros, autour de Dôme, enfin dans le sud, sont aussi relativement abondants. Et puis, vous avez des silex plus particuliers, comme les silex de l'étangien, c'est-à-dire de l'infralias, les plus anciens. Hein, je vous ai dit, ces formations, à mesure que l'on va de l'est vers l'ouest, sont de plus en plus récentes. Donc ça, c'est les premiers silex qui se sont formés, silex jaspoïde, qui se trouve en Corrèze, il y en a plus au nord, hein, il y en a tout autour du Massif Central jusqu'à la Châtre. Hein. Et puis vous avez ici vos silex là, du coin, c'est les silex du Dogger, silex du Jurassique moyen. Hein, ici, ça c'est puits dissolus, hein, ici Carinac, ici c'est Turenne. Donc vous voyez des silex, différents types de silex dans cette région, et c'est dans tous ces silex que l'homme préhistorique a choisi son matériau. Donc, on va voir quelques silex, juste pour vous montrer. Ça c'est un silex du Sénonien, bien, donc du Crétacé supérieur, silex du Périgord. Voilà, c'est un silex brun, je vais vous en montrer un autre. Voilà, silex noir, ce sont de très loin les plus courants dans tous les sites archéologiques. C'est-à-dire que ça veut dire 80, 70, 80, 90, voire 99% du matériau qui est fabriqué, des outils qui sont fabriqués dans ce matériau. Bien, ça c'est le silex courant que vous trouvez dans les couches archéologiques, dans les formations calcaires, comme on l'a vu sur la photo où il y avait le marteau, là, dans les dépôts de pente, sur les plateaux, dans ce qu'on appelle les altérites, c'est-à-dire là, le calcaire a été détruit, mais il reste cette argile remplie de silex, hein, ces argiles à silex, ou même dans les alluvions de des rivières. Donc c'était le silex extrêmement abondant, et c'est celui qui a été utilisé de préférence par les hommes préhistoriques. Mais vous avez un autre silex qui est beaucoup plus intéressant pour nous, c'est le silex du Bergeracois. Silex du Bergeracois, ça se voit un peu, c'est une variété, c'est un silex qui est parfoisonné, comme ici. J'en ai pris un relativement caractéristique. Silex du Bergeracois, il est très intéressant parce que c'est le top du top du silex, hein, probablement mondial. C'est le silex qui a été excellent pour le type de taille qu'il faisait à cette époque, c'est-à-dire le débitage de lame. Alors ça, c'est le silex. Le silex, qui a été utilisé de préférence lorsqu'on voulait faire de belles lames. Bien. Donc, silex très important, en plus très intéressant. C'est un silex du Bergeois-Pas, c'est la fin du Crétacé. Nous sommes ici dans le Maastrichtien, c'est-à-dire tout à fait le bout de du Crétacé, du Sénonien. C'est un sous-étage du Sénonien, c'est ça. Du Sénonien, c'est le Maastricht. Il a été défini dans la région de Maastricht. Et c'est juste après. Nous sommes à la fin du secondaire et là, les dinosaures disparaissent. Donc, vous voyez, on n'est plus du tout dans l'époque préhistorique de l'homme. Nous sommes dans des époques géologiques, beaucoup plus anciennes. Bien, donc ça c'est le silex, c'est très intéressant. Mais vous voyez ici une petite tache blanche, là. C'est pas simplement une petite concrétion, pas du tout. C'est un orbitoïde, c'est-à-dire un foraminifère. Foraminifère, donc ici, ça c'est un petit organisme qui avait un peu la forme et la dimension d'une lentille, vous voyez, qui vivait dans ces eaux du Maastrichtien, hein, et qui a vécu sa vie et puis qui est mort, et qui, donc, qu'on va retrouver ici, c'est une coupe, vous voyez, donc, c'est un. Comment dirais-je ça c'est l'extérieur, et là vous avez des alvéoles qui permettent de distinguer que c'est un orbitoïdes media. Donc il faut voir, le foraminifère, c'est à ma connaissance 30 ou 40 000 espèces différentes. Hein. Ça servait beaucoup aux pétroliers pour reconnaître les formations. Bon, ce qui était intéressant dans cette orbitoïde média, c'est que cette photo n'a pas été prise sur un silex géologique, mais sur un silex archéologique. Silex archéologique, c'est la grotte du Four, qui est dans le bassin de Brive. Ça veut dire donc que ce silex, c'est là où ça nous intéresse, hein, ce silex-là qui présente ce foraminifère vient du Bergeois-Pas, du Maastrichtien. C'est ça l'intérêt. Donc, c'est un moyen de reconnaître les origines géologiques et géographiques de ces silex. Un autre silex encore, c'est le silex de Meulière, silex tertiaire, silex lacustre. Donc, il ne se forme plus dans la mer, dans les fonds des mers, il se forme dans des lacs. Ce qui fait que ça pose beaucoup de problèmes pour les préhistoriens, parce qu'il y a le mode de formation dans des milieux extrêmement divers entraîne des aspects extrêmement variés. Alors en voilà un type, silex meulière, hein, probablement j'ai dû prendre sur un silex de la région de Dôme. Hein, c'est le silex qui a servi à fabriquer les meules, c'est celui-là, la meulière. Bon, et ce silex a été utilisé par ces hommes préhistoriques aussi. Et là aussi, il y a des petits organismes que l'on trouve. Ici, c'est un orbitoïde, un oogone plutôt, un oogone de carophyte. Oogone de carophyte, vous voyez, c'est une sorte de petite boule qui doit faire à peu près dans le millimètre de diamètre. Et puis, vous avez cette ornementation, comme ça, là. Voilà, donc ça, c'est un oogone de carophyte, gyrogonite. De carophytes. Les carophytes, ce sont des plantes lacustres, hein, qui poussent sur le bord des lacs. Et donc, tout simplement, ça prouve que ce silex est bien un silex lacustre. Vous voyez, c'est avec ces petits moyens que l'on remonte petit à petit, d'une part l'aspect des silex, d'autre part des microfossiles, que l'on arrive à retrouver les origines géologiques et géographiques du silex. Alors on reprend la photo qu'on avait vue tout de suite, celle des grattoirs, et on va voir autrement. On va regarder ça différemment. Par exemple, ça, ce sont des silex du Bergeois-Pas, garantie. Hein, voilà, ça c'est des silex du Bergeois-Pas. Là, en revanche, là, Ça et ça, c'est plutôt des silex du sénonien. Sénonien, hein, les silex les plus abondants. Et puis ici, c'est un silex du Fumelois. Je ne vous en ai pas parlé, mais c'est un silex très particulier que l'on retrouve dans la région de Fumel. Donc vous voyez, et ça, c'est le site de Fontil, toujours dans le bassin de Brive. Ça veut dire que ces silex proviennent au moins de 80 km de distance. Donc il y a des choix de matières premières. On ne va pas choisir automatiquement le silex le plus proche, comme notre silex du Dogger, mais au contraire, on va plutôt avoir tendance à aller chercher des silex de meilleure qualité, mais plus loin. Bon, première chose. Donc, silex qui proviennent de loin. Mais vous voyez, ce sont des lames. Et ce que je peux vous dire, hein, c'est que dans ces sites-là, on ne trouve que des lames, quasiment, naturellement. Hein, c'est essentiellement des lames. Ça veut dire quoi? Tout simplement que ces sommes préhistoriques ont été chercher leur silex dans le Bergeracois. Dans le Bergeracois, à côté des gisements de silex, ils ont fait des ateliers où ils ont débité la matière première. On les connaît, notamment avec la déviation de Bergerac. Donc on les a étudiés. Donc ce sont des immenses amas de silex, des déchets de taille. Les hommes préhistoriques ont récupéré des produits semi-finis, c'est-à-dire des lames, et ils sont repartis simplement avec les lames. Vous voyez tout de suite qu'il y a quelque chose d'autre que la simple détermination de silex, c'est qu'on perçoit chez l'homme des comportements qui sont tout à fait proches de nous. C'est-à-dire plutôt que de s'ennuyer pour aller chercher, pour ramener des grosses pierres, surtout les rognons du Bergeracois sont énormes, eh bien, on fait une première préparation et on va exporter que les produits semi-finis, voire finis. Première chose. Aussi, on va utiliser certains matériaux pour fabriquer certains matériaux de bonne qualité pour fabriquer certains types de... Donc vous voyez, c'est une donnée qui est apparue pour nous qui étions très, très nouveaux dans le métier. Nous, on était partis dans l'idée qu'on allait pouvoir déterminer de plus en plus, de mieux en mieux, les origines des silex. Et en fait, ce qui est apparu, pour nous, c'est autre chose. C'est tout simplement qu'on aperçut un comportement de l'homme préhistorique, des approvisionnements qui étaient tout à fait logiques, qui étaient tout à fait proches, qui est tout à fait compréhensible. Donc, une économie qui permet de choisir certains silex lorsqu'on en a besoin, au contraire, par exemple des silex du Bergeracois, quitte à aller les chercher loin, rares, difficiles d'accès, hein, ou au contraire, on va choisir des silex plus proches, mais de moins bonne qualité, plus abondants, mais on va faire des techniques de taille moins élaborées. Donc vous voyez, tout cet approvisionnement en matière première obéit à des stratégies économiques tout à fait normales, hein, tout à fait proches de nous. Bien, donc on reprend notre sujet. Ces silex du Bergeracois, si j'arrive à le refaire, voilà, silex du Bergeracois ici, hein, donc on va. Le silex du Bergeracois, voilà, c'est là. Hein, bon, donc, on va trouver ces silex de l'autre côté de là. Là, alors qu'ils auraient pu choisir les silex plus proches, voire ces silex du Dogger. Silex du Dogger, voilà. Hein, voilà, silex du Dogger. Celui-là vient de la région de Turenne. C'est un silex relativement de mauvaise qualité parce qu'il n'est pas. Le silex n'est pas pur, il y a une proportion de calcaire, de calcite. Dedans qui amènent à... Ils sont moins... ils s'usent plus rapidement, ils sont moins intéressants. Donc, voilà, ça c'est un silex du Dogger, celui que vous allez trouver à Puy Dissolu, par exemple, mais qui a été très peu utilisé, sauf pour faire, notamment au paléolithique supérieur, pour faire des pièces relativement épaisses, comme des grattoirs carénés. Donc, vous voyez, ça, c'est choix, c'est pas vraiment notre, le but de cette conférence, mais montrer qu'il y a derrière toute cette approche de l'homme préhistorique. Voilà autre chose, silex jaspoïde de la région de Brive, enfin puis d'Arnac. Bon, silex, voyez, jeune moutard. Silex que l'on va donc retrouver tout autour du Massif central. Bien, alors maintenant, on connaît les silex, on connaît les sites, et donc le jeu va consister à identifier les silex dans les sites archéologiques et de voir leurs origines. Bon, ici, nous sommes dans l'Aurignacien, première époque du Paléolithique supérieur. Vous voyez tout de suite, alors j'ai les silex du Cédonien qui se trouvent ici, là, je ne les ai pas pris en compte parce qu'ils auraient complètement couvert la carte. Donc on garde des silex particuliers, notamment ce silex du Bergeracois ici, là. Alors ici, nous sommes dans la vallée de la Vézère, ici le bassin de Brive. Nous, ici, dans la région de Fumel, voilà le silex du Fumelois, ici. Hein, et bien, vous voyez tout de suite qu'il y a des silex vont pouvoir voyager sur plusieurs dizaines de kilomètres, voire une centaine de kilomètres. Ce qui nous intéresse ici, il y a autre chose, autre donnée, ces silex-là, là, j'ai mis un point d'interrogation, en fait, c'est à l'époque. Maintenant, je suis quasi persuadé que ces silex proviennent bien de la région d'Aurillac. Hein, c'est intéressant, parce que dans la région d'Aurillac, il n'y a pas de site du Paléolithique supérieur. Ça veut dire que ces populations sont allées au pied des monts du Cantal, qui pouvaient être encore recouverts de glace, pour chercher un type de silex qui sont revenus et qui n'ont pas laissé de traces sur place. Bien, ce qu'on voit surtout, c'est des silex qui circulent d'est en ouest, comme ça, soit vers la Gironde, soit vers le Massif central, plutôt que dans le sens sud-nord, notamment dans la région des Charentes. Très peu de silex se baladent vers le nord. Hein, donc, je vous ai parlé de ça. Ça, c'est donc l'Aurignacien. Voilà l'Aurignacien. Les silex du Bergeracois ici, qui se baladent vers la Vézère, vers le bassin de Brive, au contraire. Et certains silex qui se trouvent dans la région d'Aurillac, qui viennent, que l'on retrouve dans le bassin de Brive. Et vous voyez, il y a, à cette époque, il n'y a aucun site connu, du moins, dans la région d'Aurillac. Voilà notre schéma, c'est toujours pareil, Gravettien, c'est une autre époque du Paléolithique supérieur, et on retrouve toujours ce même schéma, c'est-à-dire des circulations de préférence d'est en ouest, de la Gironde vers le Massif central.
Il y en a davantage vers l'ouest.
Pardon ?
Il y a un déplacement plus important vers l'ouest.
Oui, non, c'est tout simplement parce que j'ai analysé c'est les sites que j'ai analysés. Mais en fait, on retrouverait systématiquement toujours la même chose. Voilà, par exemple, ici, c'est le Magdalénien et c'est toujours pareil. Ce qui est important, hein, c'est ce balancement silex qui vont d'est en ouest, toujours. Toujours pendant tout le Paléolithique supérieur. Et dès que l'on va quitter le Paléolithique supérieur, hop, tout ça s'efface. C'est-à-dire, dès qu'on quitte la dernière glaciation, hop, ça n'a plus rien à voir. Alors que là, on a une constance. Donc ici, c'est le Magdalénien. Hein, bien, voilà, je n'ai pas grand-chose à dire d'autre. Bien. Donc, je vous ai dit, ces hommes sont des nomades. Nomades, ici, c'est des Esquimaux. Ça y est, je me souviens plus de leur nom, du Canada, donc, hein, déplacement régulier.
Des Inuits, non?
Des Inuits, hein. Oui, mais la tribu nu. Oui, enfin, c'est pas grave. En tout cas, c'est des Esquimaux avec leurs chiens qui, notamment, portent aussi, ont leur petite charge. Bien, Donc, ces gens sont des nomades, se déplacent, mais ils ne se déplacent pas n'importe où, n'importe comment, ils se déplacent d'abord dans un territoire. Alors ici, je vous ai pris un exemple d'ethnologie, notre exemple d'ethnologie, sur l'Australie, d'un monsieur Tyndall, dont je ne me souviens plus, le Norman, voilà, Norman Tyndall, qui a, cartographié tous les territoires des tribus aborigènes australiens. Bien, donc, ces hommes se déplacent, mais ont un territoire. Vous voyez tout de suite une donnée fondamentale, il y a des territoires qui sont plus ou moins grands, notamment dans le désert australien, ils sont beaucoup plus importants, alors que dans les régions côtières, ils sont au contraire, ils sont beaucoup plus grands, alors qu'ici, ils sont beaucoup plus réduits. Et vous pouvez voir que c'est des territoires qui peuvent être extrêmement vastes. Tout ça, c'est lié, naturellement, au fait que nous sommes en présence de chasseurs-cueilleurs, et donc, comme ils vont chasser, et dans les régions désertiques, ils vont avoir très peu de nourriture, donc ils vont être obligés d'avoir un espace pour se nourrir beaucoup plus vaste que dans les régions maritimes, qui vont être plus humides, où on va pouvoir exploiter aussi les produits de la mer, le poisson, les coquillages, etc. Bon, ça va donc permettre d'avoir des territoires plus petits pour le groupe. Bon, ça c'est un graphique que j'ai pris dans un livre d'écologie de M. Hamad, et qui montre ce fait très intéressant pour nous, c'est que plus vous êtes carnivore, moins vous avez de possibilités de manger, c'est-à-dire plus vous allez, ici c'est la biomasse hein, qui va de 0,001, c'est-à-dire en échelle logarithmique. Hein. Et là, ce sont les herbivores. Vous allez voir que les herbivores sont beaucoup plus nombreux parce qu'ils ont à leur disposition beaucoup plus de nourriture que les carnivores, ici omnivores, et ici les carnivores stricts. Or, ces hommes du Paléolithique supérieur, qui vivaient sous un milieu glaciaire, étaient essentiellement des carnivores. À 90%, on peut considérer qu'ils mangeaient de la viande. Donc, ils étaient peu nombreux et ils étaient obligés d'avoir des territoires extrêmement grands. Bien. Bon, aussi, une vue de la côte sud-est de l'Australie. Et vous voyez ces petits territoires sur la côte, alors que dès qu'on rentre dans les régions désertiques, automatiquement, on va avoir des territoires beaucoup plus grands. Bon, ça, on le trouve dans cette région lié à l'humidité, mais on va retrouver ça dans le subarctique, lié à des quantités de nourriture disponibles dans l'habitat. Dans le territoire. Bon, encore un exemple d'ethnologie. Ici, c'est des Bushmen du désert de Kalahari. Ce qui est intéressant, c'est juste pour vous montrer que ces gens se déplacent constamment. Ils partent novembre ici, décembre, janvier, février, mars, avril-mai. Mai, juin, et ils arrivent en juillet ici. Donc, des populations qui passent leur temps à se déplacer. Bien, ça c'est des bushmen du désert de Kalahari, donc en milieu désertique. C'est la seule que j'ai trouvée qui était... Mais je ne suis pas du tout satisfait de cette... C'est un peu complexe pour présenter ce que je veux dire. Enfin, ce que l'on peut retenir déjà, c'est que dans certaines régions, ces gens se déplacent à l'intérieur d'un territoire, mais qui sont à certains endroits, à certaines saisons, à certaines époques de l'année. Suivant un cycle, Voilà encore un autre exemple ethnologique. Cette fois-ci, c'est des Esquimaux, mais qui mangent aussi du caribou. Bien, donc, un cycle, ça commence en janvier, février, etc. Et on revient, donc, et ces gens, tout au cours de l'année, vont changer à la fois de leur nourriture, enfin, ce qu'ils vont exploiter différentes choses. Par exemple, ici, c'est la chasse aux phoques, au trou de respiration, là. Hein, et en revanche, à partir d'avril-mai, c'est l'arrivée des caribous, et donc ils vont chasser essentiellement le caribou. Donc vous voyez, ça c'est un exemple, parmi bien d'autres, qui montre que ces populations, ce nomadisme n'est pas simplement un nomadisme au hasard, mais c'est un nomadisme qui circonscrit un territoire et qui se fait suivant des cycles bien précis. Voilà donc un exemple. Bon, il va y avoir aussi des regroupements de personnes. Ici, c'est des camps de 20-50 personnes. Pareil, 20-30 personnes. En revanche, ici, ce sont 50-60 personnes qui sont réunies. Donc, il faut voir que c'est extrêmement complexe. Et naturellement, ces modes d'exploitation du territoire sont liés aussi à des facteurs locaux. Donc, ça, c'est juste des modèles, mais l'intérêt pour nous préhistoriens, c'est donc de voir comment on peut réutiliser ces modèles pour voir pour nos paléolithiques de l'Aquitaine comment ils se sont débrouillés. Donc, première chose, je vous l'ai dit, c'est des chasseurs de rennes. Donc, chasseurs de rennes, vous devez le savoir, je pense que les rennes sont des animaux migrateurs, c'est-à-dire que à la belle saison, ils vont remonter vers le nord, et à la mauvaise saison, c'est d'exploiter les tounas, et au début de la mauvaise saison, au contraire, ils vont redescendre vers les terrains d'estive. Alors, donc nord-sud, ça va se passer sur plusieurs centaines de kilomètres, et ils se déplacent en troupeau. Bon, ça, ces caribous aussi, lorsqu'il y a des reliefs, se déplacent aussi en altitude, non pas en latitude, mais en altitude. Donc, ils vont monter sur certaines montagnes pendant la période, pendant la belle saison, et ils vont redescendre dans les vallées pendant la mauvaise saison. Et tout ça en troupeau. Des troupeaux, comme vous voyez, qui peuvent être de plusieurs centaines de têtes. Eh bien, ça, cette donnée fondamentale, les hommes préhistoriques les ont utilisées. Donc, voilà, ça c'est, vous voyez la baie d'Hudson, ici, le nord du Canada. Et vous avez ici ces déplacements de rennes, ici pendant la mauvaise saison, et ils remontent vers le nord. Voilà ici, en voilà un autre exemple, ici. Et à la mauvaise saison, hop, ils redescendent. Bien, donc l'intérêt, en fait, quand vous chassez, l'un des intérêts, comme ce sont des chasseurs qui vivent pour se nourrir, non pas des chasseurs sportifs, ce qui nous intéresse, c'est de tuer un maximum de gibier avec un minimum d'énergie. Donc, ce que vont faire ces populations, c'est qu'ils vont attendre ces animaux à des endroits bien précis. Hein, il faut voir l'intérêt d'une chasse, deux choses. D'une part, le plus intéressant, c'est de chasser des groupes plus importants, donc on va pouvoir tuer énormément d'animaux, et non pas quelques individus isolés. Première chose, donc, c'est le cas ici, ce sont des troupeaux qui se déplacent. Deuxième chose, on les attend dans des endroits où ils vont être fragilisés. Par exemple ici, c'est donc des rivières, des cours d'eau. Et donc on va les attendre ici, et au moment où ils traversent la rivière, ils vont être beaucoup plus faciles à tuer. On va les tuer en kayak. Bien, c'est un moyen pour tuer un maximum d'animaux. Hein? Donc ça, c'est ce mode de chasse qui se passe souvent en automne est constant dans toutes les populations qui vivaient sur le Raine, c'est-à-dire aussi bien les populations du Nord-Canada que celles de Sibérie, qui exploitent donc cette migration. Et donc l'intérêt, c'est de trouver, d'installer des embûches qui vont permettre de coincer les rennes et en pouvoir les tuer en même temps. Ici, au lieu de que ce soit un cours d'eau, on va installer des enclos ici, et puis on va installer ici une sorte de un passage en entonnoir qui vont petit à petit guider ces animaux vers là. Bon, ça c'est une technique qu'on a retrouvée notamment chez les Néandertaliens aussi, que William Rendu a mis en évidence dans les Pyrénées. Bien, donc c'est un mode très courant. Hein. Il nous faut donc des rabatteurs et des chasseurs qui vont attendre les animaux ici. Bon, ça c'est le coup classique. Voilà, par exemple, ça c'est un dessin qui a été fait par un Esquimau du nord du Labrador. Et vous voyez des rabatteurs ici et les chasseurs qui attendent les rennes derrière des murs d'affût. Voilà un autre mode. Alors ces rabatteurs, ça peut être aussi bien des femmes, des enfants, hein, tout le monde, les milliards, toutes les personnes qui vont pouvoir. Il s'agit essentiellement de guider ces animaux vers un endroit où on va pouvoir les massacrer en masse. Et comme ça se passe en début de mauvaise saison, à l'automne, ces animaux vont pouvoir, il faut les préparer, et on va donc les conserver pendant toute la mauvaise saison, et c'est ce qui va permettre à ces populations de vivre jusqu'au début de la belle saison. Hein, et quand on rate ce genre de... Quand ces populations ont raté ce genre de chasse, qui est extrêmement important, eh bien, ils étaient très en péril, il y avait des famines, et donc un nombre très important de voir une extinction de la tribu. Bien, donc, ça, c'est la chasse que l'on retrouve partout, à l'époque actuelle. Et on peut penser que c'était la même chose chez nos populations. Bien, et on va reprendre deux points importants. Un premier point, je vous ai dit ici, là, cette région-là, de la basse vallée de la Bézère autour des Aisy, c'est là où il y a une concentration de sites absolument formidable. Bien, deuxième chose, les circulations de matières premières, ça se passe comme ça. Or, après les travaux de Bouchu, Jean Bouchu, voilà, il a montré que ces rennes se déplaçaient non pas du nord au sud, mais d'est en ouest, tout simplement en altitude. C'est-à-dire que pendant la mauvaise saison, ils venaient dans le bassin de Aquitain, et puis au début de la belle saison, hop, ils remontent vers le plateau du Massif central. Je le sais ici, mais ça existe aussi dans le nord du Massif central. Donc, ce que l'on perçoit à travers la circulation de matières premières, c'est tout simplement ces déplacements
d'est en ouest.
Ainsi, d'est en ouest, hein, en altitude. Voilà. Et s'il y a une telle concentration de sites ici, dans lesquels on trouve essentiellement du renne d'ailleurs, c'est du renne, du renne, du renne, pas de problème. Des sites comme Abri Pateau, la Madeleine, etc. C'est du renne, 99%, c'est du renne. Ben, c'est tout simplement parce que c'est là où on allait tuer ces animaux. Donc il faut voir un peu comment ça se passe. Voilà la basse vallée de la Bézère, ici, donc là. Zézy, c'est ici, là. Ici. Et vous avez ici la Bézère. Ici, c'est pas n'importe quoi. C'est la confluence de deux rivières. La Bézère, ici, et la Bonne, ici. Hein, c'est très intéressant, très important. Et on revoit les sites du Magdalénien, je suis juste au milieu de Magdalénien, et vous voyez, tous ces sites magdaléniens se trouvent en grande partie soit le long de la Vézère, soit ici le long de la Beuve. Donc la meilleure hypothèse, c'est de voir, j'ai mis des petits traits, Cévennes au début de la mauvaise saison, redescendez le long de la Vézère, prenez cet itinéraire, ou prenez celui-là, dans la région de Colly, passez un petit col ici, et puis se retrouver dans la vallée de la Beuve et redescendez. Et tous ces sites très importants se trouvent tous là, le Cap Blanc, ici la Madeleine, Laugerie, etc. Tous ces sites sont donc sur cet itinéraire. Et c'est des sites qui se trouvent là où il y a des falaises. Donc c'est probablement là où l'on coinçait ces hommes, ces rennes, ces troupeaux de rennes, où on a tué ces rennes en très grande abondance. Donc, grâce à une population qui était à la fois donc, des rabatteurs et des chasseurs, ce qui veut dire que la totalité du groupe était réunie ici pour chasser le renne à cette époque. Donc voilà, ça c'est là. C'est là, à mon avis, très probablement la réponse de cette énorme richesse de la région des Aisies en site préhistorique du Paléolithique supérieur, alors que dès qu'on passe dans la période tempérée, hop, tout ça s'efface. Bien. Alors, on a développé, les préhistoriens ont développé d'autres techniques pour percevoir, parce que là, pour percevoir ces saisons d'occupation des sites, ici c'est une tranche, vous voyez, c'est une coupe d'arbres, toute bête, vous voyez qu'il y a, pour reconnaître l'âge d'un arbre, il suffit de compter le nombre de cernes, qui sont soit noirs, soit clairs, qui indiquent la saison où le bois s'est formé. Et si on compte donc il suffit de compter le nombre de cernes, et tout à fait à l'extrémité, on va voir si l'arbre a été coupé pendant l'hiver ou pendant l'été. Eh bien, ce phénomène, il existe aussi chez les animaux, notamment dans les vertèbres de poissons. Ici, c'est de l'alose. C'est un travail d'Olivier Le Gall qui a travaillé sur ce sujet. Et vous voyez tout de suite que les vertèbres de poissons, les poissons eux-mêmes, leurs vertèbres grandissent différemment suivant la saison, avec des périodes des cernes plus ou moins sombres, et cette période des cernes claires pendant la belle saison. Donc, on va pouvoir connaître l'âge des animaux, du poisson. Et on va savoir exactement, relativement bien, à quelle époque ce poisson a été tué. S'il y a encore un début de cercle clair, ou si au contraire on est dans un cercle noir, donc pendant l'hiver. Donc voilà, ça c'est un moyen de reconnaître la saison où l'animal a été tué. Il a utilisé donc pour étudier un certain nombre de sites. Un autre moyen, c'est non plus d'étudier les vertèbres de poisson, mais les dents de mammifères, mais de n'importe quel mammifère d'ailleurs. Bien, ici c'est William Rendu qui a travaillé à la chapelle aux singes et qui a fait sa thèse là-dessus, sur ce sujet. Sujet qui avait été développé par Hélène Martin. Donc il a repris ce sujet et ça lui a réussi puisqu'il est, grâce à ça, il est rentré au CNRS. Et donc, il étudie sous un microscope une lame mince. Nous allons voir ça. Voilà, donc sous l'oculaire, on voit une lame mince d'une dent. C'est-à-dire que vous prenez une dent, vous la coupez en deux, vous faites une tranche, comme une tranche de saucisson. Et puis, comme c'est relativement épais, il va falloir la polir petit à petit, la raser, jusqu'à ce qu'elle soit extrêmement fine, et là, à ce moment-là, on va pouvoir regarder cette dent en transparence. Et voilà ce qu'on observe, vous voyez. Donc voilà la dent, ça c'est une dent de bovidé, probablement de bison. Et donc on va étudier cette lame, c'est-à-dire une très fine coupe de cette dent. Et ce qu'on étudie, en fait, c'est cette partie-là. Là, je vais vous montrer. Voilà, vous voyez, intérieurement, ici, ça se voit relativement peu. Ici, c'est la dentine. Et là, vous voyez des gravitages entre partie claire et partie sombre. Eh bien, c'est exactement le même phénomène, à part que ici, sur ces dents de mammifères, tout simplement, il y a un dépôt de sédiments qui se forme et qui va être différent suivant l'hiver et suivant l'été. Donc, on va pouvoir étudier le moment, la saison de mort de l'âge de l'animal, et d'autre part, la saison de mort de cet animal. Bon, ça, c'est des techniques qui ont été élaborées aux États-Unis, dans les grands parcs, ça servait à connaître l'âge des animaux que l'on tue. Donc, c'est une technique relativement classique, qui a été reprise par ces préhistoriens, et donc qui a été utilisée. Alors, là, naturellement, c'est pas très net. On voit ici un travail fait par Hélène Martin, qui avait précédé William Rondu, qui a eu le tort le grand tort, en tant que préhistorien, elle a eu le grand tort de développer ce sujet alors que ce n'était pas encore à la mode. Enfin, mode, ce n'était pas mûr encore. Donc, elle n'a pas eu la chance de rentrer au CNRS alors qu'elle le méritait beaucoup. Et voilà, c'est son travail. Donc, vous voyez tout simplement, dépôt large et translucide, bonne saison. Dépôt mince et opaque, mauvaise saison. Voilà un exemple ici. Hein, c'est donc cette partie-là très, très particulière où les cernes sont bien visibles, qui vont être étudiées. Et voilà son travail. Hein. Pareil, hein, vous voyez, c'est la même chose que ce que je vous ai montré, les cycles annuels. Hein, on retrouve ici, ce sont trois cycles. Cuzul de Vers, qui se trouve près de... Vers Cabreret, oui, entre la Serre et la...
Non,
c'est
le
Céline. Voilà, Cuzul de Vers, les Berrugues, voilà, qui se trouvent aussi dans le coin. Hein, et puis la Brigandine, qui se trouve près de Montauban, sur l'Aveyron. Bien, et nous voyons que ces trois sites, avec quatre estimations, sont toutes situées dans la belle saison, c'est-à-dire que ces sites étaient habités, occupés seulement pendant la belle saison. Et ces sites se trouvent à l'est, c'est-à-dire que ces gens, ça confirme donc bien le schéma que je vous ai montré, c'est que pendant la belle saison, étaient plutôt sur les bordures du massif central, voire aller sur le massif central, plutôt que dans le bassin Aquitain. Donc voilà, ça c'est un moyen de petit à petit bien percevoir le comportement de ces hommes à l'intérieur de leur territoire. Bien, donc, voilà un schéma, un modèle. Première qui me plaît, c'est donc, à la mauvaise saison, il y a une migration de rennes, et ces rennes vont être attendues ici pour être tués en masse. Nous sommes ici dans la région de mauvaise saison, dans la basse vallée de la Vézère. Et puis, avec le printemps, avec le début de la belle saison, au contraire, les rennes, eux, les flèches, je pense qu'elles sont relativement vraisemblables. Les rennes remontent estivées sur le plateau ouest du massif central, et le groupe va s'éclater, c'est-à-dire au lieu d'être ensemble, ils vont partir soit vers la Gironde, pour chasser notamment ici, on doit être dans le Magdalénien, donc ils vont chasser surtout l'antilopseïa, d'autres gibiers, ou le bison, le cheval, ou alors un peu vers le nord, ou vers le sud. C'est-à-dire qu'il y a donc aussi un phénomène, c'est-à-dire que ces populations se regroupent pendant la nouvelle saison, et au contraire, à la belle saison, vont se disperser dans l'espace, comme on le retrouve aussi dans beaucoup de populations ethniques. Voilà, l'estimo. Voilà, et bien c'est là où je m'arrête. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition.
On va faire circuler le micro. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, alors il y en a. Je vais.
C'est quoi la différence entre l'homéopathie et l'homéopathie?
Attends, t'entends pas, Jean-Luc.
Entre
la différence entre le silex et le jaspe.
Ah oui.
La granulométrie.
Oui, enfin, je sais pas, mais qu'est-ce qu'il y a de différent?
Les différences, c'est assez compliqué. Hein. C'est un problème surtout de géologue. Les différences, c'est essentiellement, il y a des les composants, en grande partie c'est de la silice, mais il peut y avoir d'autres impuretés. Notamment les silex ne sont pas suffisamment mûrs et il va y avoir des phénomènes de contaminations, soit par la calcite, pour le silex du Dogger c'est ça, soit des fers qui vont amener des colorations différentes. Et différentes même suivant l'épaisseur. C'est-à-dire que ces silex sont, d'une part, sont se forment dans certains milieux où il va y avoir donc automatiquement des apports de métaux, notamment du fer. C'est surtout le fer qui a une grande importance. Soit même ces silex, quand ils sont dans leur milieu, quand ils sont par exemple dans les silex du bergeoir, quoi, lorsqu'ils sont dans les argiles du bergeoir, quoi, donc sont sortis de leur gangue de calcaire, vont être contaminés par des minéraux qui vont pénétrer à l'intérieur du silex. Donc tout ça, c'est tout simplement, hein, il faut voir que ces phénomènes sont simplement, pour nous, c'est simplement des marqueurs, hein, ça n'a pas d'intérêt. Pour nous, hein. Pour les géologues, ça va être important, mais pour nous, c'est juste un moyen d'identifier ces silex. Il y a d'autres phénomènes, il y a aussi une maturation des silex, c'est-à-dire que ces silex se cristallisent de plus en plus.
Le jaspe, il a moins d'impureté, alors.
Pardon ?
Le jaspe a moins d'impureté, alors.
A moins de ?
D'impureté.
D'impureté, si, si, il y a des silex jaunes. Vous brûlez du silex, un silex jaune, vous allez voir qu'il va devenir d'un rouge éclatant. Éclatant, c'est tout simplement ces impuretés qui colorent ces silex. Le silex, en fait, le silex, la silice, hein, c'est le quartzialin, hein, c'est le quartz, c'est le cristal de roche, hein, c'est des matières transparentes. Mais s'il y a des impuretés, ça va entraîner ces colorations différentes. C'est simplement une aide, hein, pour nous. Hein. Bon, et le fait que ça soit plus ou moins cristallisé va entraîner une qualité plus ou moins bonne de ces silex. Pour les tailleurs de pierre, c'est très subjectif. Donc, vous parlez de silex sec, de silex doux, voilà, qui vont bien se casser. Il y a plein de données, parce que tout simplement, la minéralogie de ces silex, la cristallographie de ces silex est très diverse. Quand on les regarde au microscope électronique à balayage, on va voir, au contraire, des petites cristallisations très... Donc c'est l'agencement de ces cristallisations qui vont amener des qualités physiques plus ou moins différentes de ces silex. Vous voyez à peu près ce que je veux dire?
Il y avait une autre question.
Oui, moi, je suis ici. j'aimerais savoir s'il y avait des rennes également dans d'autres régions, de façon aussi importante. Est-ce que c'est la conjugaison, la simultanéité du nombre d'animaux à chasser et la trouvaille du silex qui ont fait que cette région a été particulièrement habitée.
Je comprends.
Vous voyez ce que je...
Je pense que je serais quelqu'un d'autre, un autre historien, je dirais oui. J'en suis pas très convaincu, mais oui. Ces préhistoriques d'Aquitaine bénéficiaient d'un environnement à la fois minéral et biologique extrêmement favorable. Très favorable, très très favorable.
De toute façon, c'était.
Mais moi j'ai travaillé sur des régions comme le Pérou, la côte du Pérou, la côte nord du Pérou, alors qu'ils n'avaient pas de matériaux de silex, mais des roches volcaniques, ils sont passés des temps énormes pour réussir à produire des petites pointes. Donc ils partaient de gros blocs comme ça, et ils arrivaient à des pointes avec lesquelles ils allaient pêcher en mer.
Ils s'adaptaient.
S'il y avait certains matériaux, ils arrivaient à se débrouiller. L'homme a des capacités absolument formidables.
Des rennes, il y en avait autant dans d'autres régions en France ?
Non.
Ou en Catalogne ?
Non. Très nettement, non. C'était le paradis terrestre. Hein. Là, ici, pour le Paléolithique supérieur, là, voilà. C'est là, hein, c'est là où, probablement, hein, c'est un peu difficile. C'est probablement lié à une humidité plus grande. On parle de glaciation froide. En fait, c'est glaciation, froid et sèche, sec. Donc il y avait probablement une humidité plus importante autour du bassin du golfe de Gascogne. Et donc il y a eu un troupeau de rennes relativement plus abondant.
On n'a rien retrouvé comme silex du côté d'Aurillac, mais on sait qu'il y a eu des silex qui venaient de là.
Ah oui, sans problème.
Et alors, ça veut dire comment ils sont arrivés
Donc, l'hypothèse, à mon avis, mon hypothèse, c'est que le groupe allait jusqu'au bord du
Massif central.
Du Massif central, hein, c'est-à-dire en gros, ça, là, dans cette région-là, ici, dans le bassin de Brive, ici. Donc, ils restaient ici, et... Voilà, dans les sites là, comme ici. Et il y avait des excursions, comme on en connaît beaucoup, des excursions probablement de chasseurs, de 4-5 personnes,
la belle saison,
qui partaient pendant plusieurs jours et qui revenaient avec de la viande, mais qui revenaient aussi, vous savez, qui revenaient avec des silex.
Avec du matériel.
Pardon, une seule question. Pourquoi la misère? Et pourquoi pas la Dordogne à la même hauteur? On a une sur le site, là,
oui.
La région de Rochefort,
oui. Oui.
Et sur la Dordogne, au contraire, on a
oui.
Le site, là, sur
oui.
Lac, sur,
ben, je ne sais pas. C'est une énigme. Ce qu'il faut voir, hein, c'est que là, il y avait la Dordogne est beaucoup plus large que la Vézère. Et alors ici, il y a à la fois une vallée relativement encaissée et des hautes falaises qui permettaient de bloquer les rennes. Bon, c'était un lieu beaucoup plus favorable. Mais bon, c'est tout ce que je peux dire. Hein. Je ne suis pas sûr de ce que j'avance. Oui, Claude.
De toute façon...
Attends, Claude, attends. Le micro, il est où ? Tiens.
Donc, au Mar de l'Ainé en particulier, on trouve souvent des sites près des quais.
Oui.
Par exemple, sur la commune de Martel, légèrement en aval de Cluges, il y a un quai. En face, on a Perazé. Et sur la rive gauche, si on monte un petit peu, on a les vieux.
Oui.
Donc, très souvent, on voit un gisement près des quais. Et Randy, comment il s'appelle
Randall White.
Oui, il avait un très bon article dans les années 90 sur les sites magdaléniens de la Dordogne, de la vallée de l'Ille et de la Vézère, où la plupart des sites, il y a plus de 50, étaient à moins de 300 mètres.
Oui, dégués. Oui.
Dégués.
Là où je ne suis pas d'accord avec lui, c'est que je ne pense pas que ce soit des. Ça a favorisé des lieux de passage privilégiés par les rennes. Parce que le renne, quand on les chasses de rennes sur des étendues d'eau, c'est sur des fleuves qui ne font pas 50 mètres de large comme la Vézère, mais qui font 2 km. Il y a ici, enfin, les grands fleuves du nord, le Mackenzie, etc. Donc des fleuves beaucoup plus larges. Le renne est capable de nager facilement. Sur 50 mètres, ça ne suffit pas. À mon avis, s'il y a eu des chasses, c'est plutôt par abattage et des coincés quelque part. Près des vallées où ils ne peuvent plus s'échapper. On doit avoir un de ces sites en bas de Laugeriot, d'après ce qu'avait remarqué Denis Perroni.
Je crois que tu as déterminé un silex, une deux,
le micro,
provenant Claude. De la Charente à la grotte de Rossignol. Donc oui. Rossignol, c'est près de Clamart.
Oui.
Et il me semble que c'est toi ou c'est André Morala qui ont déterminé ces silex venant de la Charente.
J'ai parlé de la circulation, mais les nouvelles générations ont commencé à aborder ce sujet. C'est-à-dire des circulations de silex, mais cette fois-ci à grande distance. Et il faut bien voir aussi que ces populations pratiquaient un commerce, on va dire, un troc à grande distance, et où il va y avoir notamment des silex du Bergeracois que l'on va retrouver dans les Pyrénées, et des silex des Pyrénées qui vont remonter vers là. Donc il y avait de toute façon des contacts entre les groupes, des trocs, des échanges entre ces populations. Donc, ce qu'on. Là, c'était il y a 40 ans de ça. Donc, maintenant, on connaît mieux l'environnement beaucoup plus large des silex. Et donc, on a la possibilité de percevoir, cette fois-ci, des circulations beaucoup plus larges, beaucoup plus vastes, je veux dire.
Et est-ce qu'il y avait des endroits où on a constaté qu'ils se retrouvaient en plus grand nombre ?
L'endroit où ils se retrouvent en plus grand nombre, c'est manifestement les Éditions. C'est là où on trouve les sites les plus grands au point de vue vaste. Dans les autres sites, on va trouver plutôt des habitats où il devait y avoir à peu près une trentaine de personnes. Alors que là, on peut estimer qu'il pouvait y avoir plusieurs centaines de personnes.
La capitale.
Donc, c'est ça, qu'il y a eu des. Vous savez, quand on. Les ethnologues, lorsqu'ils interviewaient les Esquimaux qui étaient ceux d'Amasalik, sur la côte est du Groenland, donc les Esquimaux vivaient pendant l'hiver dans des grandes maisons dans lesquelles plusieurs familles se retrouvaient dans ces maisons pendant l'hiver. Ils chassaient le phoque, et à la belle saison, dans la mesure où c'était la belle saison, ils étaient heureux comme des papes, parce que supporter plusieurs familles dans un espace extrêmement réduit, particulièrement pénible, surtout à la fin. Donc à ce moment-là, toutes les familles partaient, chacun en a sous des tentes, et allaient se disperser dans le territoire. Ah bon. Mais ça a probablement existé aussi aux politiques supérieures.
Oui, l'étude des matières premières était un aspect fondamental et extrêmement important de la recherche préhistorique.
Entre autres.
Et Pierre Yves vient de nous donner magistrale illustration de cette importance, parce que finalement elle nous montre une chose, c'est que ces sociétés préhistoriques, ce sont des sociétés vivantes, bien sûr, elles nous montrent la vie de ces sociétés, et surtout ce sont des sociétés ouvertes sur l'extérieur. D'ailleurs, l'étude des croyances, par exemple, de ces sociétés montre que cette ouverture est très, très vaste. Puisque nous avons des systèmes, des croyances qui sont répandues à l'Europe tout entière. Donc, par exemple, les parures aussi, ça va dans le même sens, c'est-à-dire on a des parures en Quercy qui proviennent des coquillages utilisés comme parures, qui proviennent soit de l'océan Atlantique, soit de la Méditerranée, les deux à la fois. Donc il y a une ouverture sur le monde qui est fantastique. Et moi, alors, en tant qu'amoureux de tout ce qui concerne l'esthétique, je voudrais ajouter, poser une question à Pierre-Yves. Je pense que la dimension symbolique et esthétique aussi de ces outils est importante. J'ai vu en Australie, tu le sais, que quand un aborigène taille du silex, eh bien, cette opération est associée, bien sûr, à des chants sacrés, à des mythes, à des rites très particuliers. Et donc, je pense que dans le choix des silex, il y avait aussi cet élément mythologique qui devait être. Ce n'est pas seulement le silex le plus beau, le plus facile à tailler, le plus accessible, qui était toujours utilisé. Tu montres que certains silex viennent de loin. Et je me pose la question, je voudrais que tu me dises ce que tu en penses, mais par exemple, le cristal de roche n'est pas facile à tailler, et pourtant il a été taillé, même parfois il vient de loin. Le jaspe de Fort-Mort, dans le bassin de la Loire, a aussi été privilégié par les moustériens, et puis même plus tard. Alors que c'est pas si facile à tailler que ça, le jaspe. Mais voilà, il a un aspect esthétique, il a une couleur, quelque chose de magnifique. Qu'est-ce que tu en penses?
Oui, je pense. De toute façon, ce sont des populations qui avaient un, comment dirais-je, une religion, enfin, tous leurs actes étaient sous le regard des dieux, on va dire ça comme ça. Hein, donc, il y a qu'il y ait eu dans les silex, alors qu'on le perçoit très bien, comme tu le dis, sur d'autres objets comme des coquillages, un goût pour une esthétique, hein, pour des belles formes, hein, qu'on retrouve d'ailleurs des moustériens, certainement qu'il y a eu certains silex qui accrochaient l'œil et qui ont été utilisés parce que. Ils avaient une beauté où il n'y a aucun problème. Après,
Et je voudrais ajouter un dernier mot au sujet de la recherche de l'origine des matières premières. Il y a un autre domaine qui est parallèle au tien, terrible, c'est l'origine des pigments. L'étude de l'origine des pigments. Et là, c'est un champ de recherche immense qui s'ouvre à la préhistoire et qui n'a pas été jusqu'alors véritablement exploré. Moi, j'ai essayé de commencer, mais je crois que la suite, il va falloir développer ça à fond, parce que, par exemple, je vous donne un exemple, simplement, pêche-merle. Les chevaux ponctués de pêche-merle ont été faits avec du noir, et les analyses qui ont été faites à partir des prélèvements que j'ai effectués sur ces chevaux ont montré que c'était de l'oxyde de manganèse et de barium, que l'on appelle le psilomélane. Et ça, ce pigment-là, ce noir-là, est différent du noir naturel que l'on trouve dans la grotte de pêche-merle, qui est simplement de l'oxyde de manganèse. Et maintenant, nous savons, parce qu'on a fait des recherches, que ce psilomélane, ils l'ont trouvé dans certaines cavités de la vallée du Lot, à 5 à 10 km de distance de pêche-merle. Mais ils l'ont pas, le noir de pêche-merle, ils ne l'ont pas utilisé. Donc, ça veut dire que l'utilisation de ces matières premières, il y avait des idées particulières. Et ce n'est pas toujours simple. J'ai vu en Australie, par exemple, l'ocre rouge. L'ocre rouge, eh bien, certaines peintures du nord de l'Australie sont faites avec un ocre rouge qui vient de 1500 km de distance dans le sud-ouest de l'Australie. Voilà, parce que là, c'était un site qui avait une importance mythologique exceptionnelle, et il fallait que l'ocre rouge, pour l'efficacité des peintures, vienne de cet endroit. Donc, alors, voilà, simplement aussi un détail, malheureusement, maintenant en France, on nous interdit, je dis bien, on nous interdit tout prélèvement dans toute grotte ornée, ce qui est une honte, est un scandale, et ça va empêcher les recherches de se développer. Par exemple, ça va empêcher les analyses de pigments, l'identification des pigments et l'identification de l'origine des pigments. Et ça, ça nous... Voilà.
Moi, j'avais cru, pardon, j'ai une toute petite question, que le silex du puits dissolu était blanc. C'est ce que tu m'avais dit.
Blanc, mais... zoné.
Ah, d'accord. Parce que je ne l'ai pas vu blanc, là.
Oui, exagère. Non, mais ils sont plus blancs.
Blanc que blanc.
Oui, sur le puits dissolu. Là, c'était un silex de la région de Turenne, corésien. C'était plus gris. Ils sont du nord.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, vous savez que M. Pierre-Yves de Mars est aussi un écrivain. Il a écrit un livre sur le meurtre de Lascaux. Une de mes amies l'a lu et l'a trouvé très bien. Donc, il en a porté, là, si vous voulez en acheter, vous pouvez, c'est possible. Vous ne le trouverez pas en librairie, sauf si vous le déposez. Vous l'avez déposé?
Ben oui, il est à Lascaux 4.
Ah, Lascaux 4. Voilà. Donc, Alain Ouigou est en train de vous le montrer, la verrière. Bon, et puis maintenant, il y a... On peut vous annoncer aussi le programme qui va suivre. Donc, rapidement, jeudi, on fait une sortie à Tintignac. On est à peu près une dizaine, mais on peut être un peu plus nombreux. On fait du covoiturage à partir de Martel. À 9h, on part, parce que la route est longue. C'est à côté de Nave, Tintignac. C'est une visite privée qui nous a été organisée par la personne qui s'occupe du site et qui, malheureusement, n'est pas renouvelée à cause d'une diminution des subventions. Donc, elle ouvre exprès pour nous. Et on va y voir eh bien, leurs fameux carnix qui sont célèbres maintenant dans toute l'Europe. Et j'espère que leur musée va pouvoir ouvrir bientôt. On fait alors autre chose. Pour ceux de l'association, je vous rappelle, l'Assemblée Générale, c'est le 21 mars à 17h en bas, dans la salle d'en bas. Puis il y a d'autres. Et alors, on va passer de la préhistoire au Moyen-Âge, à la période donc de l'époque où il y avait des enluminures, où on représentait les animaux sur les enluminures sur les manuscrits, puisque une personne va faire une conférence sur les enluminures des manuscrits des évêques de Cahors au XIVe siècle. Il s'agit de voir comment, quels animaux étaient représentés, quelles étaient leurs postures, et donc de nous informer sur le rapport que nos ancêtres avaient avec ces animaux-là. C'est au mois de mai, j'ai plus la date, le 5 mai je crois, je ne sais plus, quelque chose comme ça. Vous avez un site, le site des amis du musée de la Raimondie, vous pouvez aller le consulter, il est tenu à jour par Suzy Irlande qui est là. Voilà, et il est traduit en anglais puisqu'elle est bilingue. Bon, et puis en juin, il y a une conférence sur l'hydrogéologie des causes de Martel et du puits dissolu, puisque le puits dissolu, c'est un morceau du causes de Martel, c'est une butte témoin. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des sorties encore, une sortie au piage peut-être, mais on ne sait pas encore la date. Et alors le 26 avril, il y a un atelier pour ceux qui ont des enfants à partir de 7 ans, et donc vous pouvez aussi vous inscrire, moi je vais le faire, sur la poterie gallo-romaine avec François Moser, ici au musée de la Raimondie. Voilà. Bon, ben, écoutez, vous pouvez nous suivre. Merci encore d'être venu. Il y a un pot pour ceux qui veulent voir se restaurer. Monsieur de Mars, j'avais oublié la bouteille, excusez-moi, la bouteille d'eau. Merci encore à tout le monde. Merci. Et bonjour.
J'espère que ça marche.